BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, spéciale élections européennes, décryptage et analyse des résultats, Laure Clauzier.
8h40 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On est ensemble jusqu'à 9h pour débriefer les élections européennes depuis le Parlement européen à Bruxelles avec Christina Van Bergen, avec Anna Hubert, avec Geneviève Pons qui nous a rejoint. Bonjour, directrice générale d'Europe de l'Institut Jacques Delors. On sera tout à l'heure en ligne avec Benjamin Morel qui est politologue. On parlera notamment de la dissolution en France. Mais avant, qu'est-ce qu'on retient de ces élections européennes, Geneviève Pons? C'est que quand même, l'équilibre ne bouge pas. Les forces en place sont les mêmes et la place du PPE est la même depuis 1979. Donc là, on a quand même de la stabilité.
Oui, écoutez, je préfère quand même dire quatre choses hein, d'entrée. C'est vrai, au niveau européen, on garde cet équilibre avec un PPE même légèrement renforcé. En revanche, les deux grands États qui sont vraiment les moteurs de l'Europe, l'Allemagne et la France, sortent affaiblis parce que personnellement, Scholz et Macron sortent affaiblis. En revanche, comme le PPE sort renforcé, je pense qu'il faudra miser sur Mme von der Leyen pour que la Commission, elle, reste stable et forte. Et puis finalement, du côté français, c'est un saut dans le vide, c'est un pari très audacieux que beaucoup, y compris moi-même, quand je l'ai entendu, ont qualifié d'insensé. Voilà.
Moi, je... Insensé, ouais, vous
non,
êtes dit, c'est la première chose.
Je n'ai pas compris. Ça n'était pas du tout attendu. Ça n'était pas du tout le discours pendant la campagne. Donc, c'est très risqué et c'est très dangereux pour l'Europe, pas seulement pour la France.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit vous-même, Christina Van Bergen? Vous êtes dit, quand vous avez entendu la France, vous êtes dit, là aussi, c'est un saut dans le vide.
Non, je m'attendais, je vais vous dire pourquoi je m'attendais, c'est un peu étrange ce que je dis. Macron, c'est un grand leader, le président Macron, c'est un grand leader et il sait d'habitude ce qu'il fait, quels sont les différents scénarios. Donc, pour moi, la dissolution de l'Assemblée, c'était une alternative. Et ça, c'est un cadeau donné au parti de Mme Le Pen, puisqu'il va falloir se, comment dire, reconvaincre, reconquérir la France. Et, mais en même temps, c'est un grand défi pour le Parlement, l'Europe. Puisque, tout le monde va se concentrer sur la politique intérieure. Donc, cela aura des conséquences sur la nomination, sur la formation des groupes dans le Parlement européen. Et donc, c'est un contexte un peu confus, un peu dans tous les sens. J'espère qu'on aura plus de clarté dans les semaines qui vont venir.
Mais Naouda, tout le monde a dit c'est une surprise, c'est un saut dans le vide. On parlait il y a un instant, on a eu un tweet d'Olivier Blanchard qui est évidemment très suivi, assez étonnant, racontez-nous.
Oui, alors Olivier Blanchard, économiste au Peterson Institute, surtout ancien économiste en chef du Fonds monétaire international, et puis l'un, si ce n'est le dernier nobelisable français pour le Nobel d'économie, qui a estimé que c'était non seulement une décision intelligente mais juste, parce que je donne son raisonnement, c'est que si ce n'est durant la campagne, ça sera après, avec un gouvernement Rassemblement National, le peuple français se rendra compte de l'incohérence de leur programme et que ça serait alors que 2 ans à faire le dos rond plutôt que d'attendre 2027 et que ça soit 5 ans avec le Rassemblement National. Si une personnalité comme Olivier Blanchard sort ça en pleine nuit, c'est que ils sont un certain nombre autour du président de la République à penser de même. D'autant qu'on voit...
Il valait mieux le faire maintenant que d'attendre.
Voilà, l'idée c'est coupons-nous en bras maintenant que les deux jambes et les deux bras en 2027. C'est ce raisonnement-là qui est fait. D'autant qu'il y a certaines réactions assez intéressantes en Europe, comme chez nos confrères de Die Welt, le grand quotidien conservateur allemand, qui explique que Emmanuel Macron fait preuve de grandeur et d'audace et que Olaf Scholz devrait absolument faire comme lui. Et on voit fleurir comme ça, par exemple à Ljubljana, en Slovénie, en Estonie, l'idée que voilà, c'est lui qui a montré la voie.
Et nous entre aussi, la folie et l'audace, hein, c'est toujours, on est assez proche.
Je vous donne effectivement ces différentes réactions pour montrer que un certain nombre de capitales ne pensent pas que c'est tout à fait insensé.
Anna Huber, vous qui baignez dans les journalistes européens, comment ça a réagi hier?
Oui, c'était assez étrange. J'étais dans l'hémicycle et c'est vrai qu'il y avait un espèce de mouvement. On sentait les journalistes français en émoi, mais alors les autres pas du tout. Donc c'est quand même quelque chose d'assez franco-français, même si on l'a dit, tout le monde a réagi après. Mais sur le coup, on s'est senti un peu seul, nous journalistes français, à vivre ça. On s'est tous dit, bon, il nous a un peu volé notre moment. Pour une fois qu'on allait faire les gros titres, finalement, ça va être la dissolution. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir quelles vont être les conséquences européennes de cette dissolution. Est-ce que, par exemple, Emmanuel Macron va être affaibli lors de ce fameux sommet des top jobs fin juin, oui. Le sommet qui est censé décider qui est-ce qu'on met à la tête de la Commission, du Conseil européen, etc. Un président qui n'est pas sûr d'avoir une majorité, voire qui est plutôt sûr de la
perdre. Ça, sur le calendrier, d'ici 3 mois, c'est...
Le sommet des top jobs, c'est 27-28 juin, donc ça vient très très vite, et on sera même pas, on n'aura même pas les résultats de l'élection. Donc à voir si Macron est effectivement affaibli dans cette négociation. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est de voir...
Et si je ne suis pas d'accord
Sur les top jobs, vous n'êtes pas d'accord pour dire qu'il
ne
sera pas affaibli?
Non, je ne suis pas d'accord puisque le président Macron est déjà un leader bien établi en Europe. Et s'il faut changer quelque chose, il aura une influence. Mais ceci étant dit, personnellement, je ne pense pas qu'il va avoir proposé une alternative pour Mme von der Leyen. Par contre, j'ai ce sentiment qu'elle va pousser pour Mme Kallas pour qu'elle soit la nouvelle représentative de la politique externe, puisque le président Macron, il est très focalisé sur la politique externe de l'Union européenne, et ça, tout le monde le connaît.
Surtout,
les top jobs, Benahouda, juste, il nous reste...
Le Parlement européen, la présidence du Conseil européen, effectivement, le chef de la diplomatie européenne, la présidence de la Commission, bien entendu, et puis l'ensemble, après, des commissions.
Et même l'OTAN, cette année.
Et l'OTAN, sachant que Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais libéral sortant, affaibli et pressenti. On verra si le président de la République française a encore la main, s'il réussit à faire passer Mario Draghi comme président du Conseil européen. C'est aussi la question qui va se poser. Si Mario Draghi passe, ça voudra dire qu'effectivement il a encore la main. S'il ne passe pas...
Ne passe pas dans le contexte politique actuel avec le parti de droite si fort.
Geneviève Fons, votre avis sur l'évolution de ces top jobs?
Je partage l'avis de Christina, en fait. Je crois que d'un point de vue personnel, depuis 7 ans, Emmanuel Macron s'est imposé comme un grand leader européen. C'est pas du tout une opinion politique française que j'exprime là, c'est vraiment une opinion européenne. Il a une vision pour l'Europe. Il l'a très bien exprimé dans son discours de la Sorbonne. Et il a toujours été porteur de progrès pour l'Europe. Et ça, dans les champs européens, c'est quelque chose qui compte. Et je crois qu'il ne va pas perdre ce leadership. Donc je suis de ce point de vue-là vraiment du même avis. Maintenant, je crois qu'il aura intérêt à parier sur la stabilité de la Commission. Parce que la configuration qui fonctionne, que moi j'ai vécue sous Jacques Delors, j'étais membre de son cabinet, c'est un trio en fait. Hein. À l'époque c'était Mitterrand, Kohl et Delors. C'est Mitterrand, Kohl et Delors qui ont fait le marché unique et l'euro.
Et là aujourd'hui on manque un peu de puissance politique.
Les deux grands leaders qui sont des grands leaders par structure historique, c'est la réconciliation, par poids économique, ce sont les deux plus grands pays européens.
Et le groupe Weimar now.
Et bon, bien sûr, il faut intégrer la Pologne, notamment dans ce contexte de guerre à nos portes, hein, aux portes précisément de la Pologne. Ce que je crois, c'est qu'il y a une structure qui est naturellement une structure qui porte l'Europe. Si deux des piliers sont affaiblis pour des raisons internes, je crois que c'est important que le troisième pilier reste stable. Donc il me semble que le pari, parce que ça a été un petit peu mis en cause par les uns ou les autres, le pari c'est de garder Mme von der Leyen là où
elle va rester.
Il y a un troisième pilier, il est à Rome, traité de Rome. Et Giorgia Meloni estime être au sein du G7 et de l'Union européenne, c'était sa déclaration cette nuit, être la chef du gouvernement ou d'État disposant de la plus grande légitimité politique pour mener à bien ses projets. Donc, penser que ça va pouvoir encore se faire entre Paris et Berlin sans tenir compte de Rome, ça paraît
inconcevable. Il est difficile aujourd'hui de comprendre quel est le rapport de Giorgia Meloni avec l'Europe. Elle est pro-européenne, elle est opportuniste.
Elle est proche d'Ursula von der Leyen, en tout cas c'est ce qu'on essaye de nous montrer.
Oui, mais elle n'a pas exprimé sa solidarité par rapport à son nomination lorsqu'elle a eu des propositions.
Exactement, et en même temps Ursula von der Leyen elle-même n'a pas exclu de travailler avec le groupe ECR dont est membre Giorgia Meloni. Et je pense qu'effectivement Giorgia Meloni elle est dans cette position où elle est plus assez à droite, à l'extrême droite, puisqu'elle est au gouvernement, en même temps un peu trop pour rejoindre des grands partis qui pèsent au Parlement européen comme le PPE. Donc oui, effectivement, je pense qu'elle est dans un entre-deux parfois inconfortable.
Comment vous la qualifieriez, Ben Aouda? Elle se dit centre-droit maintenant.
Et ça s'attend de plus en plus vers le centre-droit dans le discours, mais après il va lui falloir maîtriser la branche équivalente du Rassemblement national au sein de son gouvernement qui est la Lega qui a subi un revers cette fois-ci. Est-ce qu'elle va aller plutôt vers le conservatisme traditionnel de Forza Italia ou vers la Lega? C'est aussi une question qu'elle-même dans sa propre majorité va devoir résoudre, sachant que les sociaux-démocrates ont fait 25% en Italie. Donc la social-démocratie en Italie est bien plus vaillante qu'à Berlin et à Paris. C'est aussi cela qu'il faut relever.
Et la question qui se pose pour Giorgia Meloni, c'est aussi la question qui se pose pour l'ensemble du groupe ECR au Parlement européen. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont faire le choix de s'allier plutôt avec l'extrême droite au risque de partager avec eux le cordon sanitaire qui s'applique au groupe ID, groupe du Rassemblement national, ou est-ce qu'ils vont faire le choix de se rallier au PPE, grand groupe de droite? Et dans ce cas-là, peut-être que ça va faire peur à d'autres alliés historiques du PPE, on pense aux socialistes, aux verts, etc. Donc il faudra voir un petit peu ce qu'il advient de ce grand groupe ECR qui pourrait être le groupe aussi dans lequel reconquête le parti de Marion Maréchal se greffe.
Ils ont 5 députés.
Ils ont 5 députés. C'est pas dit qu'ils le rejoignent. C'est ce qu'ils souhaitent.
Geneviève Ponce, il nous reste quelques minutes, mais quand vous regardez ce taux d'abstention qui a baissé quand même, ces élections européennes qui ont malgré tout intéressé, même si on a beaucoup parlé de politique nationale, surtout en France et en Allemagne, dans les grands pays, il y a quand même cette envie d'Europe. Oui. Vous qui travaillez sur ces sujets depuis des années, est-ce que ça vous rend optimiste?
Oui, absolument. On avait déjà fait un saut tout à fait extraordinaire en 2019 avec plus 8%. Là, si je ne m'abuse, on est du côté de plus 2%, c'est correct. Donc on continue à avoir une hausse de la participation à ces élections. Je crois que de plus en plus de citoyens européens se perçoivent comme tels, c'est-à-dire comprennent que beaucoup de choses très importantes se jouent au niveau européen, donc c'est très satisfaisant. Maintenant, sur le rôle de CR, juste un petit point, la déclaration de Mme von der Leyen face à la victoire de la CDU qui va fortement renforcer le PPE, et le fait que globalement, les sociaux-démocrates et le centre ne vont pas perdre, je crois que la déclaration qu'elle a faite montre qu'elle va parier, comme par le passé, sur l'alliance avec cette coalition centrale. Et donc, l'hypothèse de coalition ponctuelle avec ECR est en train, à mon avis, de perdre en importance compte tenu des résultats.
Je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est le centre, cette coalition là, qui va lui donner de nouveau, qui va approuver son programme politique pour la nouvelle commission.
Merci beaucoup à tous les quatre de m'avoir accompagné pendant cette spéciale Europe depuis le Parlement européen à Bruxelles.